Face à l'actu, des experts au micro, colloques, tables rondes, débats ou tout autre événementiel sont autant d'occasions pour Choups Radio de vous tenir informé. Choups Radio, en quête d'action. Je suis toujours sur le Géron Forum de la FNACPA, sur le thème de ce Géron Forum, sortir de la contrainte par l'innovation. Et pour finir cette première journée, je suis avec monsieur Jean-Marc Blanc. Bonjour monsieur Blanc.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut méditerranéen des métiers de la longévité.
DML en raccourci.
Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de cette fondation? Quels sont ses objectifs?
C'est une fondation qui a été créée par l'Université de Nîmes et l'agglomération de Nîmes. Son but, c'est de promouvoir une vision différente du phénomène du vieillissement.
Ce matin, effectivement, vous nous avez parlé du vieillissement, vous nous avez parlé de nos seniors, de la culture, des cultures, de comment on considère nos seniors, qui sont nos seniors, est-ce qu'on connaît nos seniors? C'est des questions qui vous interpellent.
C'est-à-dire que c'est surtout la société qui devrait se les poser, finalement. C'est là qu'on se rend compte qu'ils sont devenus quelque chose à part. Alors qu'en fait, il y a un phénomène démographique qui fait que, si vous voulez, il y a plus de seniors que jamais dans les pays occidentaux. En France en particulier, même si elle n'est pas la plus touchée, c'est quand même très important. Sauf qu'on a l'impression que lorsqu'on devient vieux dans notre pays, on n'est pas dans un phénomène juste physiologique. Mais on est privé d'un certain nombre de choses, en particulier de sa parole.
Alors, on parle là, effectivement, par exemple, de citoyenneté.
Oui.
Donc, quelle place on peut donner Alors, j'ai envie de dire le mot vieux, mais si je dis vieux, ça va être péjoratif, hein, parce que c'est un peu perçu comme ça quand on dit ça en France. Si on parle de nos vieux.
Est-ce que vous pensez que jeune, c'est péjoratif? Si on pense que jeune, c'est pas péjoratif, alors vieux, c'est pas péjoratif.
Voilà, donc je vais continuer, parce que moi, j'aime bien l'idée des vieux et des vieilles, parce que nos vieux et nos vieilles, on peut les appeler nos seniors aussi. Ils sont une mine d'or, une mine d'informations, ce que j'appellerais des bibliothèques au quotidien qui sont là et qui nous enrichissent. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est un peu compliqué. J'ai entendu dire qu'il y avait une enquête de satisfaction qui avait été faite par l'Ipsos, comme quoi une très large majorité des Français avaient une bonne vision de nos seniors. Est-ce que c'est ce que vous voyez, vous, au quotidien?
Écoutez, j'ai vu cette enquête, effectivement, et je vous avoue qu'elle m'a assez étonné, parce qu'il y a quand même loin de ce sondage à la réalité. Je veux dire, si les seniors étaient tant aimés que ça par la population, je pense que le problème des EHPAD ne se poserait pas, le problème du bénévolat dans les EHPAD ne se poserait pas, le problème du maintien à domicile ne se poserait pas, le problème de l'isolement social des personnes âgées ne se poserait pas. Donc je crois que le problème, c'est que les Français ne savent pas ce que c'est un vieux. Il y a une image fantasmée de la personne âgée qu'on trouve dans la Mamie Nova Café Grand-Mère, quoi. Mais la réalité de ce que c'est un vieux, les Français veulent pas le voir, parce que cette image, c'est une image miroir qui est relativement insupportable de ce que la société présente, c'est-à-dire la personne dégradée, malade, etc. Ce qui est faux, ce qui est 15% environ du segment de personnes ayant passé 80 ans, donc c'est pas énormément de personnes, mais c'est un tel repoussoir, si vous voulez, que on s'est formé une sorte d'image idéale. Alors cette image-là, évidemment, les gens dans un sondage vous disent: ah oui, c'est formidable, les vieux. Mais combien le dimanche invite leurs propres grands-parents à déjeuner? Combien consacrent du temps, vont au cinéma avec leurs grands-parents, etc. Après, voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à cette jeune génération, à votre avis, il n'y aurait pas peut-être une éducation à apporter en expliquant peut-être aux jeunes qui sont nos vieux, qui sont aujourd'hui, par exemple, des gens qui ont été des fans de rock hier et qui aujourd'hui encore sont toujours fans de ces années 60 ou d'autres années? C'est un petit peu ce que vous nous disiez aussi ce matin.
Oui, mais je crois que, si vous voulez, il n'y a pas tant à changer les jeunes qu'à changer les vieux. Enfin, c'est-à-dire à redonner la parole aux vieux. C'est-à-dire qu'en gros, les jeunes peuvent penser ce qu'ils veulent, c'est pas très grave. Les jeunes peuvent penser que les vieux sont comment, c'est pas un problème. Le problème, c'est à partir du moment où les vieux eux-mêmes, finalement, sont un peu complices de ça. Et ne vont pas eux-mêmes faire entendre une voix différente dans la société. Alors, ils le font, ils votent avec leurs pieds. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus là pour garder les petits-enfants, ils vont se balader entre potes, ils sont en croisière, ils étudient le bien-être, ils vont dans des stages de yoga ou de méditation. Et ça, c'est une réalité, aujourd'hui, des seniors à partir de 60 ans, 60, 75 ans. Donc, moi, ce que je trouve dommage, si vous voulez, c'est que n'importe qui peut penser ce qu'il veut des vieux. Mais les premiers à devoir s'emparer de quelque chose pour dire: et les amis, on n'est pas ça, on n'est pas Mamie Nova, on écoute du rock, on s'intéresse aux nouveaux chanteurs, on adore les tablettes, on s'inscrit sur des sites de rencontres, et on aime bien boire un coup entre potes, c'est les vieux eux-mêmes qui ils doivent le dire, ils doivent s'affirmer comme ça et ne pas se rêver comme des faux jeunes.
C'est aux personnes concernées de se bouger aussi un petit peu, j'ai envie de dire, comme dans tous les domaines. Alors, Monsieur Blanc, avant de se quitter, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu donc, de ces métiers de la longévité qui vont, j'imagine, eux aussi évoluer, se transformer. Certains vont peut-être disparaître, d'autres vont peut-être arriver.
Alors, sous le coup de boutoir de deux choses, hein, l'âge, bien sûr, l'avancée en âge, mais aussi les réalités médicales qui font que les médecins sont de plus en plus absents à certains endroits et qui deviennent donc un maillon de la chaîne qu'il faut à un moment remplacer. Alors, ils sont les premiers à se plaindre d'être remplacés à un moment par des algorithmes, sauf que la réalité, c'est que quand sur un périmètre, vous n'en avez plus, il faut quand même bien remplacer par quelque chose. Donc je pense que le métier qui risque le plus d'évoluer, c'est le métier d'infirmière, qui va aller, comme ce phénomène au Canada, sur un métier entre médecin et infirmière, en fait, avec un diagnostic qui va être renforcé. Après, je pense que tous ces métiers n'ont pas pris aussi la mesure de ce que la transformation numérique allait leur apporter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous demande d'aller travailler chez une personne âgée, on vous demande de savoir passer un balai, de savoir repasser, de savoir cuisiner, on vous demande pas trop si vous savez faire fonctionner une Google Box. Pourtant, dans 5 ou dans 10 ans, il y en aura dans toutes les maisons, la domotique sera dans toutes les maisons, et donc, du coup, il va falloir des gens, si vous voulez, dont le niveau de rapport à la transformation numérique soit plus élevé. Et ce côté-là, ce côté formation à des aspects numériques ou pratiques des métiers de base de la solidarité ou de l'aide aux personnes âgées ou handicapées, je pense que ça, on ne le prend pas assez en compte.
Aujourd'hui, ça veut dire que concrètement, il faudrait peut-être revoir la formation, par exemple, des auxiliaires de vie ?
Complètement. Essentiellement, les auxiliaires de vie, les services à la personne qui arrivent dans des maisons. Et dans des maisons, une fois qu'elles arrivent, on leur donne une tablette, on leur demande de noter leurs observations, on leur demande de participer à un effort domotique sur la maison, à du repérage de la fragilité, avec des objets connectés. Et souvent, ces personnes-là, on ne leur donne pas la formation. Donc je pense que oui, ça va être sûrement un des axes de progression prochains pour aider le maintien à domicile.
Alors là, on parle de la valorisation des auxiliaires de vie. Je crois que ça manque encore un petit peu aujourd'hui, pour certaines d'entre elles en tout cas. Mais on parle aussi peut-être d'intégrer les auxiliaires de vie à une vision global, où on pourrait peut-être imaginer un carnet de liaison qui serait chez la personne âgée, par exemple, où tout le monde pourrait intervenir sur ce carnet de liaison. Est-ce que ça vous semble une idée intéressante, par exemple, pour nos seniors ?
Que les auxiliaires de vie notent sur des cadets de liaison, c'est déjà une idée intégrée, et on trouve maintenant des systèmes qui font qu'elles peuvent même dicter ou écrire sur des tablettes. Donc la dernière personne à être intégrée dans la chaîne, devinez qui c'est ?
C'est le seigneur lui-même.
C'est le seigneur lui-même. C'est-à-dire que vous avez chez vous un carnet de liaison ou un carnet numérique dans lequel vous ne pouvez pas noter, alors que vous êtes quand même le premier concerné, et où des gens notent des choses pour vous, à l'insu de votre plein gré, plein de bonnes intentions, mais sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Donc je pense que le pas supplémentaire, si vous voulez, aujourd'hui, c'est de décentrer en fait le focus, en se disant, est-ce que la chaîne professionnelle est complètement intégrée ? Non, c'est est-ce que le senior est lui-même complètement auteur et partie prenante de cette chaîne ? Et là, on est loin encore de pouvoir y répondre positivement.
Et pourtant, comme on entendait ce matin par l'un des intervenants, si je me rappelle bien des chiffres, 80% des seniors jusqu'à 80 ans étaient en capacité d'utiliser les outils Internet.
Ah ben oui, de la même manière qu'il y a 5 ans, il y a maintenant 10 ans, quand les iPhones sont arrivés ou les smartphones, pour ne pas faire de pub, on n'a pas su les utiliser au début. Moi, je veux dire, il y a 10 ans, 40 et quelques années, quand les premiers smartphones sont arrivés, j'ai mis une semaine à les utiliser. Une personne âgée, c'est la même chose. C'est une nouvelle technologie, dès qu'elle arrive, on met un moment, si vous voulez, à se l'approprier. Mais du moment qu'elle répond à un besoin, vous l'adoptez. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les personnes âgées ont des tablettes ou des smartphone, c'est parce que ça répond à un besoin. Donc il faut bien se dire que c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est plus bête. Par contre, on doit apprendre. Et ça, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc une personne âgée, si on l'encourage à apprendre, elle sait et après elle manipule. Et c'est pas un problème. Et je dirais même au-delà de 85 ans. Sauf que, à partir d'un moment, on vous dénie aussi la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'on va vous aider à. On va mieux faire pour vous. C'est-à-dire que vous, au lieu de vous donner la tablette, on va vous dire, on va faire ensemble le jeu. Non, je pense qu'il faut tenter toujours l'intelligence.
Et de faire avec, au lieu de faire pour.
De faire avec, de faire au service d'eux, et non pas de faire à la place.
Monsieur Blanc, une dernière question avant de se quitter. En un mot, si je vous dis innovation, vous me répondez ?
Moi, vous dirais répondre aux besoins. C'est, il n'y a d'innovation qu'en termes de besoins. Si vous avez un besoin, une innovation, elle rencontre son marché. Si vous avez une innovation sans besoin, elle se casse la figure.
En quête d'action, c'était Face à l'actu, un programme de Choups Radio.